Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons aborder aujourd'hui, on va dire, quelques nouvelles questions. Alors, je commence par une question de Gino. Bonjour, est-il possible et nécessaire de visualiser les petits cailloux d'une façon globale que nous avons versés dans l'eau afin de leur envoyer nos intentions les meilleures? Bien, alors, tout est possible car il faut savoir que nous sommes un créateur incarné et que le pouvoir de notre intention et aussi donc projection par rapport à quoi que ce soit est toujours positif. Donc, que ce soit des pierres encodées ou non, le simple fait d'en avoir l'intention suffit à déclencher des choses, on va dire, sympathiques, autant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui émettent. Voilà, alors Gino, bah, il n'y a aucun souci, tu peux leur envoyer tes intentions les meilleures. Une question de Flavio. Concernant la grosse Bertha en préparation pour l'encodage à distance, est-ce que le guidage de cette dernière pourrait se focaliser aussi sur les pierres déjà distribuées dans la nature afin de codifier atomiquement pont, lit de rivière, bâtiment religieux et tout autre élément codifiable en proximité de ces dernières. Ceci pourrait permettre de maximiser l'efficacité du travail de distribution réalisé jusqu'à maintenant. Alors, je vais commencer donc simplement, c'est que la grosse Bertha, c'est surtout, comme le nom l'indique, du gros calibre. Et un gros calibre, comme dirait l'autre, c'est pas comme un tir de fusil, une balle d'un sniper. C'est-à-dire que ça n'a pas une précision d'enfer, mais là où ça frappe, ça fait beaucoup de mal. Donc, ben, quand beaucoup de mal, on s'entend, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une arme de précision absolue, parce que ça fait plutôt dans le déblayage assez costaud. Donc, pour l'instant, étant donné que nous n'avons pas encore fait d'essai, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, on va dire, à la finalisation de l'outil, d'abord, on va prendre des temps, et aussi, bah, le manuel des opérations ne nous a pas encore été communiqué, hein, puisque ça ne sera fait que quand on sera d'abord à la fréquence, et deuxièmement, quand l'outil sera terminé. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore fait de tir, et il est évident que des tirs très rapprochés, ça devrait être relativement assez précis. Par contre, des tirs à l'autre bout du monde, ça va pas être une évidence. Mais bon, il y a donc un certain nombre de choses qui sont, on va dire, dans les tuyaux, et c'est le futur qui nous dira comment tout ça, ça va se comporter. Hein? Donc, évidemment, quand cela se fera, il y a, on va dire, de fortes probabilités que cette fameuse, on va dire, version 3 qui est dans les tuyaux, nous soit délivrée. Donc, chaque chose en son temps. Pour l'instant, tout est en préparation. Et évidemment, il y a aussi un autre aspect qu'il va falloir prendre en compte. C'est-à-dire, autant on peut aller, on va dire, dans une église pour aller l'encoder, autant ça relève, on va dire, de notre ressort, puisque nous sommes, un, sur place, deux, nous savons que c'est un endroit énergétique qui a été ni plus ni moins dérobé, subtilisé aux êtres de la nature. Nous savons que ce sont des points, entre guillemets, qui ont pour objectif d'alimenter, on va dire, la grille des sombres. Donc, on sait qu'on peut y aller gentiment. On n'a pas à demander à un déva. On n'a pas à demander à trois gardiens de vortex s'ils sont d'accord ou pas. Parce que d'abord, hein, dans chaque église, eh bien, il y a, dans la majorité des cas, on va dire, un vortex. Mais le gardien n'y est plus depuis bien, bien, bien longtemps. Donc, on n'a pas d'autorisation à demander. Par contre, dans les tirs à distance, là, nous allons avoir affaire à demander des autorisations. Recevoir l'autorisation et de dire globalement si ça va se faire dans un mois ou dans 15 ans. En clair, il va y avoir une procédure à suivre à laquelle nous n'avons pas pour l'instant, on va dire, une connaissance parfaite parce que on ne peut pas, juste sur notre simple intention, notre volonté de bien faire n'importe quoi. Donc, on joue à un autre niveau, et pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'école, en préparation à ce qui va venir. Mais nous ne pouvons pas passer à l'action pour l'instant. Hein? Ensuite, eh bien, on verra, fonction de ce qui se passera, et de la cadence de tir qu'il faudra tenir, ou de l'urgence qu'il y aura à faire, on va dire, localement par rapport à la France, nous verrons bien si nous pouvons utiliser, on va dire, cette capacité d'encodage à distance sur un territoire, on va dire, pas très lointain, puisqu'on est dedans, hein, par rapport à d'autres territoires. Je vous rappelle que l'encodage à distance est surtout, pour l'instant, en priorité mené par rapport, on va dire, à l'Arctique. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et donc, bon, bah là, si on envoie un encodage à 3 km près, ça change pas grand-chose. Par contre, viser, on va dire, un monument, une cathédrale, quelque chose, là, ça va demander énormément de précision. Hein, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous n'avons pas encore l'aptitude et la capacité à pouvoir utiliser la grosse Bertha qui, pour l'instant, est en assemblage, on va dire, hein, qui n'est pas terminée. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, les hiérarchies qui sont au-dessus savent très bien ce qui sont les priorités à faire, et nous ne sommes que, on va dire, des exécutants au niveau de notre monde de 3D4D. Donc, on va, comme dirait l'autre, soumettre, dire voilà, il y aurait ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez, et surtout dire est-ce qu'on a l'autorisation pour le faire. Et à partir de là, il y aura toute une déclinaison d'autorisation. Donc, nous ne sommes pas, on va dire, des personnes qui sont là pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous sommes au service et il n'est pas question de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la contrepartie. De plus on vous donne des capacités à faire quelque chose, de plus vous devez être rigoureux dans ce que vous faites, mais aussi extrêmement responsable et respectueux de l'impact que cela va avoir sur tout ce qu'il y a autour. Donc, point question d'y aller au pif ou au mètre et dire, tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ça? On peut toujours proposer, on peut toujours dire, voilà. Mais nous ne pouvons pas, nous n'aurons absolument pas l'autorisation d'utiliser la grosse Bertha selon notre convenance. Ça, c'est, il faut rayer ça de la carte. D'accord? Donc, vous pouvez, bien sûr, faire des propositions que je reporterai, on va dire, dans les hautes instances, mais je ne peux garantir, on va dire, les autorisations qui seront données en conséquence. Il faut savoir que nos amis de l'invisible ont un point de vue beaucoup plus généraliste que nous, beaucoup plus, ils ont plus de recul et ils voient beaucoup mieux ce qui se passe et surtout sont bien sûr au courant d'un certain nombre de trucs qui nous dépassent totalement. Donc c'est là qu'il faut faire confiance bien sûr à notre petite voix et à nos guides, et parce que nous sommes là pour effectivement aider l'humanité, bien plus que l'humanité, car c'est pas seulement l'humanité qui est en cause avec la grosse Bertha, hein, c'est la remise à niveau, on va dire, de Terre-Mère à un niveau énergétique qu'elle a perdu depuis, on va dire, pas mal de temps. Donc, on n'est pas des mercenaires lâchés qui disent « bon, maintenant, faites ce que vous pouvez ». Non. Hein? Voilà. Alors, l'autre partie de Flavio. Concernant les changements du fil du temps qui se suivent à une vitesse croissante, y aurait-il des ajustements réalisés dans la distribution des petits bouts de choux? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cela parce que nous n'avons bien sûr pas toutes les données suffisantes, car une fois que la grosse Bertha sera en route, on ne sait pas ce que ça va véritablement faire en termes d'impact, et donc quelle va être l'influence sur la vitesse de déroulement, on va dire, des choses. Donc, comme je n'ai qu'une très très brève idée de la version V3, je ne sais pas ce qu'elle va avoir dans le coffre. Donc, là, faisons confiance. Et de toute façon, sachez que tous les petits poussés, d'une manière ou d'une autre, seront, on va dire, mis à contribution dans le sens de la participation active à ce qui se passe. Hein. De toute façon, vous le sentirez. Hein. C'est, sachez que, quoi que nous soyons, c'est surtout votre petite voix qui commande. Hein. Votre petite voix commande avant même ce que vos guides peuvent vous dire. Hein. Comprenez que vous êtes relié à votre esprit directeur en passant par votre petite voix, hein, donc votre soi supérieur qui fait l'interface, on est d'accord, mais c'est la source en direct pour vous. Et les éléments extérieurs qui peuvent intervenir dans le déroulement de votre vie ne sont là que pour vous donner des indications, des choses, mais c'est votre petite voix qui compte avant tout. Donc il se passera ce qu'il se passera, sachant que tout ce qui se passe actuellement en ce monde interagit surtout. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent influencer grandement le déroulement des choses et qui, pour l'instant, ne sont pas forcément accessibles. Alors, maintenant, une question de Véro. Ces derniers temps, je ne ressens plus vraiment l'effet des cailloux encodés dans les bouteilles au point où je me suis demandé si j'allais arrêter. Tendance faible, peu d'énergie. Mais après la dernière conf, j'ai décidé d'acheter ces bouteilles en verre de 2 litres. J'ai versé mes fonds d'eau de bouteille en plastique ainsi que l'eau d'une bouteille de 3 litres que je n'avais pas touchée depuis 5 mois pour remplir un cinquième toutes les bouteilles en verre. Puis je les ai numérotées et je note sur chacune la date quand je les remplis et quand il en reste un cinquième. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le plastique et le verre pour la qualité de l'eau en termes de vibration ou est-ce le fait que l'on ingère le plastique qui est le problème? Alors, déjà, effectivement, plus l'eau encodée va monter en puissance, plus il va, d'une certaine manière, on va dire, être corrosif par rapport au plastique. Donc, autant les niveaux de puissance étaient faibles, le plastique, c'était pas un problème, autant la puissance va augmenter et plus la désagrégation, on va dire, du plastique va être importante. Alors, ceci est valable surtout par rapport à des eaux qui sont très très fines. C'est-à-dire que pour l'instant, si c'est de l'eau de robinet éventuellement filtrée, ou de l'eau de source, ou des choses comme ça, ça ne va pas vraiment attaquer beaucoup le plastique. Alors bien sûr, des plastiques ont été étudiés quand même pour être en plastique alimentaire. Par contre, quand vous allez aborder des eaux beaucoup plus fines, du style de l'eau osmosée, là, le problème va devenir, nettement plus important, parce que la taille des clusters de l'eau, hein, des molécules d'eau, si vous voulez, pas de la molécule en elle-même, mais des regroupements qu'il y a entre les molécules, vont être beaucoup plus fines, et donc à ce moment-là, vont avoir un pouvoir pénétrant beaucoup plus grand. Donc, si vous avez simultanément, une eau très très fine, ajouté à une eau qui est très montée en puissance, il est évident que ces deux facteurs vont faire que les bouteilles en plastique vont devenir rapidement un problème. Donc c'est pour cela que nous sommes passés au niveau du verre, hein, parce que le verre est un minéral, déjà, hein, alors que le plastique, je vous rappelle, est issu du pétrole, ce qui est donc un hydrocarbure, hein, c'est-à-dire du carbone, hein, avec d'une certaine manière de l'eau. Et c'est pour ça que c'est pas très bon arrivé à un moment. Par contre, le verre, c'est pas un problème du tout. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, quand j'ai demandé à mes guides, entre guillemets, pourquoi cette eau continuait toujours à monter en puissance et semblait, c'est même plus de l'infini, c'est l'infini de l'infini de l'infini. La dernière eau que j'ai mesurée à la maison faisait 10 puissance 6200 milliards. Et on m'a répondu, ouais, pas de problème, c'est que le début. J'ai dit, d'accord. Bon, ok, c'est bon. Il me dit, non, vous n'avez pas idée jusqu'à quel niveau ça peut monter. Vous êtes simplement sur le début de la courbe de l'infini, mais vous n'y êtes pas encore arrivé au bout là, hein, parce que ça va continuer à monter encore. Et encore. Donc, moi, ce que je vois, c'est que grosso modo, enfin c'est grosso modo à la louche, pratiquement toutes les semaines. Bon, si je vous donnerais 7 jours, parce que là quand même, ces derniers temps, j'ai regardé un peu plus précisément quand même, mais bon, j'y vais à la louche, mais j'ai regardé, en l'espace d'une semaine, je vois que globalement, ça double, à peu près. Alors, le truc, donc là, j'ai Brigitte qui me dit qu'il y a une question sur le chat. J'ai remarqué, alors après, alors attends, il faut y aller gentiment. Après lecture des commentaires sur les effets personnels ou ton article sur tes effets, attendez là. Après lecture des commentaires sur les effets personnels ou ton article sur tes effets personnels, il m'arrive peu de temps après d'avoir les mêmes effets. Quelque chose à dire ou expliquer sur un possible mimétisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous reliés. Et donc, le simple fait que vous suiviez ce que je dis, et que surtout vous buviez aussi de l'eau encodée, fait que nous sommes reliés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière encore plus forte que la normale. Donc, l'autre chose aussi, c'est que le fait de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations fait que vous allez ouvrir des portes en vous. Et donc, comme ça ouvre les portes de compréhension, des déclics de compréhension, eh bien, les choses vont se passer au niveau de votre corps. Voilà pourquoi c'est un travail collectif. C'est-à-dire que chaque personne qui va dire ce qui se passe en lui, qui témoigne, qui dit voilà ceci, voici cela, eh bien, ça ne fait que renforcer, on va dire, l'égrégore qui correspond à ceci. Alors que les égrégores ne sont pas forcément négatifs, hein. Un égrégore, c'est simplement une quantité d'énergie, hein, qui est due aux pensées, hein, ajouter des émotions, bien sûr, des gens qui participent à cet égrégore. Donc c'est un réservoir d'énergie. Donc ce réservoir d'énergie peut bien sûr être dans une direction, on va dire, involuante ou évoluante. Donc quoi que vous fassiez de toute façon, dès qu'un individu a une intention donnée, eh bien, il commence à créer en son monde un égrégore, c'est-à-dire qu'il y met une partie de soi. Et ça, c'est l'aspect du créateur. Et donc, il est évident que plus il y a d'individus qui vont se joindre à cet aspect, et plus l'égrégore va grandir. Donc, en clair, théorie du centième singe, il arrivera à un moment où, automatiquement, tout ce qui arrive à l'un d'entre nous se répercutera sur tous les autres. Alors, bien sûr, il y aura une certaine forme de sélection, dans le sens où, si une personne a une intention, on va dire, qui n'est pas très bonne, elle sera, on va dire, bouffée par l'énergie opposée, si elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça qu'il y a un auto-nettoyage, comme il se passe au niveau de notre corps, tous les jours. Sachez que, dans nos cellules, il y a toujours des cellules qui, on va dire, pètent les plombs et ne sont plus d'accord avec la direction, on va dire, générale. Et donc, on appelle ça un cancer. Et donc, notre corps élimine des dizaines de cancers tous les jours. Simplement, nous ne les voyons pas parce qu'ils n'ont pas pris une importance suffisante. Par contre, si, on va dire, la politique générale là-haut ne modifie pas, on va dire, un certain nombre de principes ou d'actions, eh bien, à ce moment-là, le nombre de cellules virales va commencer à prendre de la force, et petit à petit, eh bien, nous nous dirigeons tranquillement vers un cancer partiel, puis ensuite généralisé. Donc, je ne vais pas faire le descriptif de tout ça, mais sachez que ce qui se passe au niveau de notre corps humain se passe au niveau de l'humanité. Donc, il est important de savoir que tous les gens qui boivent de l'eau encodée se retrouvent dans une configuration de nettoyage. Et donc, à ce titre, ils vont être un petit peu plus lumineux que la normale, et que cette lumière, cette information, c'est-à-dire cette facilité d'accueillir de nouvelles informations, et surtout, basée sur l'intention que vous avez d'avancer sur votre chemin, eh bien, fait que nous faisons prendre, d'une certaine manière, nous participons à l'évolution de la société. Et donc, c'est une histoire de nombre, de masse. Alors après, vous allez me dire, ça va dépendre aussi de la qualité des gens qui émettent, on va dire, cette intention. Car plus vous serez dégagé de la lourdeur involuante, et plus vos intentions vont être fortes, puissantes. Et si elles vont effectivement dans le sens du service, eh bien, elles vont rentrer en résonance avec toutes les énergies que nous recevons actuellement de la Terre et du Soleil, et du Soleil central. Donc, cet effet résonance va donc amplifier les effets, les capacités, c'est comme un engrais. Et partant de là, eh bien, il y a des possibilités, effectivement, de faire, on va dire, un impact positif par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le sens évolutif du terme. Voilà, donc cet aspect mimétisme est un aspect, on va dire, normal. C'est comme une loi de l'attraction, en fait. C'est-à-dire que vous allez petit à petit ressentir les mêmes effets. Et le fait, tout simplement, d'en prendre connaissance suffit à enclencher la chose. Alors, je vais reprendre mes questions parce que là, bon, c'est une petite question sur le chat. Reprenons. Est-ce que ça vaut le coup de boire de l'eau encodée si notre hygiène de vie alimentaire, émotionnelle, spirituelle n'est pas vraiment au top? Eh bien, c'est la raison de plus, c'est-à-dire puisqu'elle n'est pas au top, eh bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire être au top? Au top, c'est par rapport à une croyance que vous avez, par rapport à une référence ou un objectif que vous dites « Ah, ça serait bien que j'atteigne ça ». Alors, il faut savoir que toujours là intervient la force de l'intention. Donc, si votre intention est d'arriver à ce stade, l'eau encodée va vous y aider. Et si vous buvez de l'encodée sans avoir l'intention, de toute façon, elle vous aidera quand même, mais ça sera d'une manière beaucoup plus inconsciente pour vous. Et c'est alors que vous découvrirez qu'il se passe des choses en vous, alors que vous prenez simplement conscience qu'il se passe quelque chose en vous que vous n'aviez absolument pas désiré. Il faut savoir que l'eau encodée est là pour vous faire retrouver, on va dire, votre véritable puissance, vos pouvoirs, et par un processus qui est relativement simple, qui s'appelle celui du nettoyage. Donc le nettoyage ne se fait pas seulement dans votre corps physique au niveau 1D, 2D, 3D, il se fait sur votre corps de manifestation complet, c'est-à-dire sur les 12 premières dimensions. Et comme je l'avais expliqué, eh bien, il est plus facile, et surtout parce que c'est moins encombré, de commencer par la 12e. C'est-à-dire qu'un gros travail est fait dans l'invisible, et au fil du temps, vous allez découvrir que ça commence à avoir des résultats dans l'aspect physique que vous voyez. C'est-à-dire que dans certains cas, vous verrez des choses qui vous arrivent et qui vous dites « mais j'ai rien fait pour si ». Vous avez bu de l'eau encodée, car vous aviez l'intention, quand même, de poursuivre votre chemin vers plus d'élévation, c'est-à-dire de surtout lâcher prise par rapport à un certain nombre de crasses qui nous habitent. Or, il faut savoir que ces crasses qui nous habitent sont pour certains, on va dire, dissolubles, c'est-à-dire qu'on peut les dissoudre, mais d'autres ne le seront pas tant que vous n'en aurez pas pris conscience. Mais si par contre vous ajoutez votre pouvoir créateur à ce moment-là, eh bien ces blocs de calcaire dans nos tuyauteries vont se retrouver sous une espèce de laser assez conséquent et vont donc exploser ou être diminués suffisamment pour qu'ils soient évacués. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de réactions en termes de diarrhée, en termes de grosses suées. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez être pris, le thermostat est déréglé, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que des fois, bon, c'est surtout quand je dors, hein, mais ça peut m'arriver encore de journée, je me prends des suées, mais monumentales. Et je suis trempé comme une soupe alors que j'ai rien fait. Ben, il faut savoir que simplement le corps a monté en température pour pouvoir évacuer, on va dire, certaines crasses qu'il ne pouvait pas faire. Parce que, d'une certaine manière, même si vous pensez être en bonne santé, en fait, on est des malades, des gros malades. Donc, certaines fois, notre corps a besoin de monter en température pour se débarrasser de certaines saloperies. À l'inverse, comme votre corps va aussi recevoir beaucoup d'informations, car dites-vous bien que quand vous expulsez quelque chose, il faut, on va dire, remplacer ce vide, enfin le remplir par quelque chose d'autre. Et généralement, quand vous expulsez, on va dire, excusez-moi, de la merde, eh bien, vous avez intérêt à la remplir par de la lumière. Or, on sait que la lumière, eh bien, elle est froide. C'est-à-dire, c'est de l'information provenant de sphères, on va dire, dites supérieures, qui fait que vous allez vous prendre des glaçons. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état où vous êtes pris une suée à pouvoir vous prendre un état. Alors après, c'est qu'une histoire de temps. Ça peut se faire 10 minutes après, comme ça peut se faire un jour, deux jours ou une semaine après. Vous faire littéralement glacer par, en fait, des informations nouvelles qui viennent, à ce moment-là, s'insérer aux endroits où il y a eu un vide de fait. Et donc c'est ainsi que nous augmentons notre fréquence en lâchant, on va dire, du moins bon, et afin qu'il y ait du meilleur qui rentre. Et donc par ce processus, on va dire, eh bien, vous allez subir progressivement une élévation de fréquence, tout simplement. Donc cette élévation de fréquence vous amènera forcément à avoir des visions, mais aussi des réactions absolument différentes d'avant. Ainsi donc, comme Véro le dit, ces derniers temps, je ne ressens plus vraiment l'effet des cailloux, c'est parce que tout simplement, elle est arrivée à un certain niveau. Et ces contrastes qu'elle avait avant n'existent plus. Si vous êtes à 10 MHz et on vous balance un 20 MHz sur la tronche, vous allez dire, waouh, là je l'ai senti passer. Mais si vous êtes à 19 MHz, le 20 ne vous fera plus rien. Donc à ce moment-là, la musique pourra continuer. Et c'est pour ça que nos guides nous disent « Profitez-en de ressentir ces choses-là, parce que ça va passer. » Et c'est pour ça que vous êtes incarné dans un corps biologique. C'est parce que vous avez la possibilité de vivre dans la matière ce que vous ne pouvez pas vivre, on va dire, dans l'invisible. Car dans l'invisible, vous n'avez pas véritablement de corps. Et comme vous n'avez pas véritablement de corps, eh bien, vous n'avez pas le contraste. Et comme vous n'avez pas le contraste, eh bien, vous avez de grosses difficultés à prendre conscience. Par contre, en étant incarné, l'effet contraste est énorme, et c'est en fait une voie d'apprentissage absolument hyper accélérée. C'est-à-dire que c'est un cadeau vraiment faramineux d'être incarné dans un corps, car grâce à ce corps, nous pouvons prendre conscience des choses beaucoup plus vite. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'eau encodée va vous décrasser, comme dirait l'eau, dans pas mal de dimensions, et progressivement, vous allez, par effet d'aspiration, d'une certaine manière, élever votre fréquence. Et donc, vous allez avoir de moins en moins de contraste. Et comme vous aurez moins en moins de contraste, il ne se passe plus rien. Ah si, il se passe quelque chose, sauf tu ne le ressens plus comme avant. Quand une voiture est à l'arrêt, si tu veux démarrer, tu sens les à-coups, tu sens qu'il faut y aller mollo avec l'embrayage, sinon le moteur risque de te caler. Mais après, tu verras que si tu es mis comme sur une autoroute, la voiture va aller de plus en plus vite alors que tu sens plus du tout l'accélération. Tu dis, voilà, bon non, j'appuie sur l'accélérateur, et puis ben voilà. Sauf que, au départ, tu vas rouler à 20 à l'heure, et puis ça va passer à 30, à 40, à 50, à 60, à 70, à 100, à 120, 130, 150, et tu dis, mais j'ai rien fait. Si, c'est que tu avais le pied calé sur l'accélérateur, ou que tu l'as laissé à un certain niveau, et progressivement la voiture allait monter en vitesse. Donc, c'est la même chose au niveau des fréquences, c'est-à-dire que plus vous allez avancer sur le chemin, et de moins en moins vous aurez des contrastes violents que vous avez eu au départ. Parce que quand vous êtes sur l'autoroute, que vous soyez à 90 ou 110 ou 150, eh bien, l'effet démarrage de la caisse là, qui était sur le parking depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec tout bloqué, une fois que les blocages, dès que ça s'est mis à rouler, alors dans les débuts, ça a peut-être mouillé un petit peu, hein, mais arrivé à un moment, ça roule, quoi, et on ne sent plus rien. Donc, cet aspect de « je ne ressens plus rien » est en soi un très bon signe. Ça veut dire que il y a moins de coulement, et donc ça roule mieux. Alors, donc je reviens vers toi, Véro. Est-ce que ça vaut le coup de boire de l'encodé si notre hygiène de vie alimentaire, émotionnelle, spirituelle n'est pas vraiment au top? Top, ça ne veut rien dire, parce que la route est infinie. Donc, faut pas dire « quand j'aurai les sous, j'achèterai », dites-vous bien, je l'inconscient que ça vienne, que j'y laisse ou pas, et vous verrez que ça viendra. Donc il ne faut pas se fixer des objectifs, car dites-vous bien que se fixer des objectifs ou penser à telle référence est une projection de votre mental ego. La progression dans l'être-té n'est pas une progression avec des jalons, avec un truc qu'on mesure. Vous ne pouvez que constater votre état de légèreté. Vous ne pouvez que constater combien votre vision du monde change et combien elle vous impacte. Car avant, nous étions tous, on va dire, des moutons, des bœufs, c'est-à-dire des gens vivant absolument automatiquement, enfin, d'une manière automatique, par des programmes automatiques qui disaient « on est lundi, je vais au boulot, on est samedi, ça y est, c'est le week-end ». Etc., etc. Ou dire, voilà, ben maintenant, quand j'ai fini mon travail, eh ben, je rentre à la maison, je mange, je regarde la télé, puis ensuite, je vais me coucher. Donc, tout ça, c'était des programmes automatiques qui pouvaient être rassurants parce que ça donnait un cadre. Mais vous n'êtes pas venu pour être, on va dire, un créateur incarné qui s'ignore totalement et qui vit comme un mollusque en attendant le cimetière. Donc, plus vous allez d'une certaine manière, décrassé, plus vous allez vous rendre compte que ce que vous voyez, que vous preniez pour normal, est normal pour le préhumain, mais absolument anormal par rapport à un véritable marcheur incarné. Vous allez voir, donc là, bon, je ne veux pas avancer par rapport à d'autres questions, mais vous verrez qu'à ce moment-là, la notion d'espace-temps que nous avions l'habitude en 3D, 4D, va prendre des coups, on va dire, sérieux derrière la tête, parce que quand nous vivons un temps matériel, comme c'est le cas en 3D, avec une montre, avec le mouvement des planètes, etc., on commence déjà à être un petit peu surpris par, on va dire, le temps intérieur, qui est celui de la 4D. Mais vous allez voir que quand vous mettrez un pied dans la 5D, d'une manière consciente, c'est-à-dire que vous aurez, on va dire, suffisamment élevé votre fréquence, vous allez voir que la notion du temps même est une ânerie. Est une ânerie dans le sens de l'invisible. Mais dans notre école de formation, elle en a une en 3D, 4D. Mais quand vous mettez les pieds en 5D, vous direz, mais c'est con ce truc. C'est absolument... Donc autant, quand vous étiez au parking, ça pouvait être important d'avoir une peinture qui délimitait la place de parking, d'avoir un toit au-dessus de la tête en disant « je suis à l'abri des intempéries, je suis en sécurité, il y a tout ceci, tout cela ». Mais dès que vous allez vraiment mettre les pieds en 5D, alors, de temps en temps ça va être de temps en temps au départ, puis après, de plus en plus souvent, ben, c'est que tout simplement vous sortez du parking et vous allez faire vos courses, vous allez mettre le nez dehors. Et là, la notion de dire, voilà, ça fait 45 ans, 3 jours et 2 heures que je suis sur le parking, tout va bien, voilà. Et ben, un jour, comme dirait l'autre, la voiture s'éteindra, on la prendra, on l'emmènera à la casse, on dira, elle ne servait à rien cette bagnole, elle était au parking, à 100 ans sécurité, elle ne voulait pas mettre le nez dehors. Alors bon, entre-temps, il y en a qui essayent d'astiquer la bagnole, on est d'accord, mais elle est toujours au parking. Voilà pourquoi il y a cet aspect, ce que j'appelle bisounours. L'aspect bisounours, c'est de dire, ouais, attends, je vais faire briller la caisse, mais elle roule toujours pas. Donc, je comprends qu'on veuille bien nettoyer la voiture pour sortir, parce que ça fait toujours mieux de sortir avec une voiture propre que d'avec une voiture absolument crade. On est d'accord, mais c'est pas parce qu'elle est crade qu'il est interdit de sortir. Et donc, c'est en cela que chacun d'entre nous, en tant que marcheur, a plus ou moins astiqué la voiture, et que certains n'ont jamais astiqué la voiture, mais ça ne va pas les empêcher de mettre le nez dehors. Et c'est le cas pour tous les marcheurs qui sont, on va dire, relativement récents sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont sortir en se disant « mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que la voiture soit propre ou pas, moi je vais dehors ». Et il était évident que dehors, il peut faire beau comme il peut pleuvoir à Crabat. Et donc quand il pleut à Crabat, ça peut aussi quand même relativement nettoyer la caisse. Donc, certaines personnes peuvent se gausser d'une certaine manière de dire « Ah ben, ça fait 30 ans que je médite, je fais ceci. » Donc, ils ont bien briqué la caisse. Mais dites-vous bien que celui qui n'a jamais médité et qui fout le nez dehors avec sa caisse, au premier orage venu, eh bien, il va découvrir que la véritable couleur de sa voiture. Donc, aujourd'hui, les données sont totalement différentes. Alors, dernière question. Est-ce que mettre deux C2P dans chaque bouteille peut être une bonne idée? Alors, moi, c'est ce que j'ai fait systématiquement. parce que pour moi, c'était, on va dire, une sécurité de base. Qui veut dire, bah, quels que soient mes mélanges, quels que soient mes trucs, de toute façon, même s'il n'y a pas de pierre encodée, je sais que l'eau monte en puissance, mais en mettant une pierre, je suis sûr que la référence sera toujours là. Voilà, donc ça, j'ai fait ça depuis le tout début. Et il n'y a que depuis moins d'une semaine où j'ai dit, bon, maintenant, vu la puissance à laquelle est arrivé l'eau, mettre une pierre ne changera plus grand-chose. Donc, parce que bah, je commençais à en avoir marre de boire à la bouteille en disant faut que je fasse attention que quand même le dossier de pied ne vienne pas me casser, on va dire, les dents, quoi. Parce que bah, faut voir, puis ah, bah, quand tu arrives vers le fond, il faut faire à gorge, parce que sinon l'autre, il va descendre. Donc, je dis, bon, c'est bon, je crois que là, on est passé un stade suffisant pour se dire que arriver à une puissance telle que c'est même plus la peine. Ce n'est même plus la peine. Bah, ça, c'est mon truc à moi, mais. Quand votre eau sera arrivée à, on va dire, à 10 000 milliards, enfin 10 puissance 10 000 milliards, tu diras, ouais, bon, ça n'aura pas beaucoup d'influence. Mais il est évident que si c'est pas monté à des puissances comme ça, ça crée quand même une différence. Voilà, Véro. Alors maintenant, ben, je vais passer une question de Françoise. Suite à tes conseils dans la dernière webcon, j'ai rajouté des pierres dans la bouteille d'eau dans laquelle je bois. Et ce que je constate, c'est que j'ai de plus en plus de mal par rapport au temps. Je suis obligé de me concentrer pour savoir le jour qu'on est. Je regarde mon agenda 3-4 fois par jour pour ne rien oublier. Et si jamais je n'ai pas noté un rendez-vous, il est oublié. C'était un peu comme ça avant, mais là, ça s'accentue de plus en plus. Par contre, l'eau ne me coupe pas l'appétit, ce qui est bien dommage. Peut-être que je n'en bois pas assez. Alors, voyons déjà deux choses. C'est que plus, comme je l'ai indiqué précédemment, plus nous allons monter en fréquence et plus la notion d'espace-temps que nous connaissons de 3D-4D va s'estomper. Et nous allons, par ces changements dimensionnels, avoir la tête ailleurs. Donc, il est évident que s'il y a un rendez-vous que vous n'avez pas noté, vous pouvez être assuré à 100% que vous l'oublierez. Parce que vous n'en aurez pas fait une trace écrite. Si ça reste simplement dans votre tête en disant « Ouais, bah, je fais confiance à ma tête », le problème, c'est que votre tête, elle va passer de la 3D à la 5D et entre les deux, il y a eu un reset. Donc, ne comptez absolument pas sur votre mémoire. N'y comptez absolument pas. Donc, il y a donc une période, on va dire, que tant que vous allez faire du yoyotage 3D, 4D, 5D, vous allez être, en fait, vous avez un Alzheimer puissant, comme on dit. Hein. Par contre, une fois que vous serez établi, on va dire, en 5D, à ce moment-là, il y aura plus ce yoyotage dimensionnel et vous aurez une fonction de mémoire absolument, on va dire, en bon état, pour pas dire meilleur. Donc, je constate simplement sur mon humble personne que, effectivement, ce qui concerne les aspects 3D, 4D, quelquefois, je prends de la distance, comme on dit, je vais noter certains trucs, mais bon, c'est moins grave qu'avant, on va dire, hein. Mais par contre, j'ai découvert que, j'avais une fonction de mémoire exceptionnelle des choses. Et, comment dire, depuis que j'ai stabilisé, on va dire, hein, c'est pas moi qui ai stabilisé, on va dire que j'ai atteint une fréquence qui me permet d'être beaucoup plus stable, ce qui est différent, eh bien, je me rends compte que je me souviens de choses qu'auparavant je n'aurais jamais été capable de me souvenir. Donc, autant il y a cette période de yoyotage qui fait que on a des effacements de mémoire tellement réguliers, d'abord par rapport aux effets de la 3D, mais aussi par rapport au temps qui est celui de la 4D. Donc, ne pas savoir quel jour on est, de la semaine, voire du mois, voire de l'année, je peux vous dire que ça devient effectivement un problème quand nous sommes en contact de la 3D. Hein? Donc, même moi, là, quand je me suis levé ce matin, je ne savais absolument plus qu'on était dimanche et que j'allais avoir webconf. C'est en regardant mon micro, je sais, ah, d'accord, dans 2 heures j'ai webconf. Sinon, pour moi, ça faisait pas partie de mon monde. Donc, il faut faire attention, il faut prendre des marges de sécurité, comme on dit. Hein. Et de toute façon, ça, tant que ça ne coûte pas la vie à quelqu'un, c'est bon. Alors, donc, l'autre question de Françoise, par contre, l'eau ne me coupe pas l'appétit. Eh bien, l'eau ne te coupera pas l'appétit, dans le sens que il y a en nous encore, au niveau de nos automatismes biologiques, qu'on pourrait considérer comme des entités, puisque dites-vous bien que chaque cellule est une entité distincte qui travaille en groupe, eh bien vous avez encore des tribus intérieures, hein, des clans, qui disent « nous, on n'est pas prêts d'abandonner le boulot qu'on est en train de faire ». Donc nous, on est habitués à digérer des choses, il faut nous donner à bouffer, parce que si vous ne nous donnez pas à digérer, nous, on n'en a rien à foutre, et on fait la révolution, et on va te le faire savoir. Et donc c'est pour ça que il ne faut absolument pas chercher à arrêter de manger. Il faut simplement laisser faire. Et donc, à fur et à mesure que l'eau encodée va décrasser un certain nombre de programmes, eh bien, progressivement, vous allez voir que votre alimentation va changer. C'est-à-dire que tout ce qui était lourd à votre corps va petit à petit, vous allez l'abandonner sans même vous rendre compte que vous l'avez abandonné. Et progressivement, vous allez aller vers une alimentation, on va dire, plus légère, plus saine d'une certaine manière, mais il ne faut pas avoir cet objectif de dire « Ah non, je ne veux plus manger du tout ». Ça, c'est un aspect du mental ego. Ce n'est pas l'aspect de votre corps physique. Donc votre corps physique, s'il vous réclame encore, eh bien, donnez-lui. Et puis ensuite, il y a un autre élément, c'est celui, comme je disais, des automatismes. Et nous savons très bien que nous portons des choses à la bouche et nous les mangeons souvent. Parce qu'il y a un petit conflit émotionnel, ou parce qu'il y a une instabilité, on n'est pas en équilibre, et on jette sur la tablette de chocolat, il nous faut quelque chose. Bien. Alors ça, c'est purement des programmes, on va dire, évolutifs, et ce n'est absolument pas dû à une nécessité du corps. Mais on charge la bête, de telle manière que ça nous calme un petit peu ce déséquilibre. Mais dans la réalité, ça ne fait que l'amplifier d'une certaine manière. Voilà pourquoi il faut rester, on va dire, zen et cool par rapport à ça. Donc moi, je le vois bien à mon niveau. Je me jette régulièrement sur des trucs à droite à gauche. Mais je suis conscient qu'en me jetant sur ces trucs à droite à gauche, ce n'est pas mon corps qui demande. Mais je ne peux pas aller à l'encontre. Parce que si je dis non, nada, à ce moment-là, ça va foutre le bordel, le bouzou derrière, et ça va devenir pire. Donc la seule chose que j'ai pu faire, entre guillemets, c'est de changer la nature de ce que je me mettais sous la dent. C'est-à-dire que, vous savez, les cacahuètes, hein, les chips, c'est quand même sympa. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en prenais, j'étais malade comme un chien derrière. Et mon corps avait des réactions extrêmement violentes. Donc maintenant, eh bien, la seule manière de ne pas mettre ça sous la main, bah, c'est plus en acheter du tout. Donc comme j'ai plus de chips sous la main, comme j'ai plus de cacahuètes sous la main, eh bien, je n'en mange plus. Donc ça, c'est quand on n'a pas la force suffisante, entre guillemets, de regarder un paquet de chips et de dire « Non, je t'ouvrirai pas. » Non, 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 non. Si vous n'avez pas la force de faire ça, bah, n'achetez pas. Alors, j'ai petit à petit dérivé vers des choses, on va dire, plus, moins mauvaises. Et pour en arriver, en fait, à une espèce d'ingrédient, on va dire, de substitution, parce que c'est cela, hein. C'est, alors c'est un nom complètement tordu, parce que ça, c'est un truc hindou qui vient des Védas, qui est tout simplement un équivalent, on va dire, de ce qu'on appelle l'amrit kalash. Et donc, en fait, c'est une substance, entre guillemets, qui est faite par le mélange d'un certain nombre de plantes. Et donc, quand j'ai demandé à mon guide, j'ai dit, écoute, là, franchement, là, je me jette sur tout ce qu'il y a à droite à gauche, parce qu'à fur et à mesure de ne plus acheter, de ne plus acheter les choses que sur lesquelles je ne veux plus me jeter, eh bien, petit à petit, comme dirait l'autre, les étagères deviennent vides, et là, on a une espèce d'insatisfaction qui naît. Et donc, je lui ai dit, et ça, là, je fais quoi? Et il m'a dit, ça, c'est mieux. Parce que ça apporte des éléments à ton corps que ton corps a besoin. Alors, bien sûr, ça n'a pas forcément le goût que tu voudrais, mais au moins, ça va dans un sens positif par rapport à ton corps. Alors, la seule suggestion qu'il m'a dit, il m'a dit, oui, mais cependant, tu mets un de ces deux P dedans pour quand même faire que tous les ingrédients qui sont à l'intérieur de ce truc, eh bien, puissent recevoir ce code de 5D6D. Voilà. Donc, comme dirait l'autre, progressivement, petit à petit, Corinne et moi, eh bien, on dérive vers des choses qui sont plus, on va dire, correctes pour notre corps que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Hein? Donc, avant, on jetait sur tout ce qui nous faisait, on va dire, plaisir, qui nous attirait, mais ce sont des programmes, on va dire, involuants dans le sens qu'ils sont destructifs. Alors maintenant, pour moi, le destructif, c'est vite vu. C'est diarrhée, pas immédiate, mais pas loin. Hein, c'est-à-dire que, alors, aigreur d'estomac, je ne vous en parle pas. Dès que j'ingère quelque chose que mon corps ne veut pas, ça devient l'enfer. Donc, j'essaye de suivre au mieux, hein, entre cette tendance à vouloir prendre des choses, pour pas dire me gaver, dès qu'il y a un petit souci qui se présente et que... Alors bon, ça me fait prendre conscience qu'il y a un léger déséquilibre et qu'il faut que je regarde quelle est l'origine de ce déséquilibre. Mais malgré ça, quand même, c'est difficile de résister à se goinfrer de certaines choses. Alors, une question... Ouais, bon, Françoise 23, on a fait. Donc, peut-être que je n'en bois pas assez, c'est pas une histoire de quantité, c'est... bon, si, c'est vrai que si tu bois deux verres d'eau encodée dans la journée, c'est que ça fait pas BZF. Par contre, si tu en bois, on va dire, une quantité raisonnable, on va dire, de litres, je donne un ordre d'idée, mais ça veut rien dire, et que elle est hautement encodée, ça va quand même faire des choses. De toute façon, de ce côté-là, il y a eu des avancées, on va dire, majeures concernant cette aptitude, entre guillemets, à manger de moins en moins, mais d'une manière absolument naturelle et sans forcer. Mais ça, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, car pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Et quand ça sera prêt, je vous en parlerai de telle manière que vous puissiez agir en conséquence. Car nous avons effectivement... réussir à trouver, on va dire, une chose qui permette d'alimenter le corps d'une manière positive, dans le sens où tout ce que nous mangeons aujourd'hui, que ce soit du bio, du naturel, tout ce que vous voulez, globalement, est mort. Donc ça veut dire que vous n'apportez pas ce que votre corps vous demande véritablement. Et donc, nous avons trouvé des petites choses intéressantes dans le domaine, mais pour l'instant, comme dirait l'autre, le projet n'est pas finalisé totalement dans sa version 3D, donc on attend encore un tout petit peu, mais dès que ça sera fait, croyez-moi, je vais vous mettre au courant, c'est pas le problème, hein. Simplement, c'est suite à nos découvertes, et on se rend compte aujourd'hui que Corinne et moi on mange, mais c'est pas parce qu'on a faim. La nourriture n'est plus devenue pour nous un support de vie. Donc, on regarde en fait nos programmes involuants dans les yeux. Mais ce que nous avons trouvé n'est pas, pour l'instant, on va dire, encore accessible en 3D, d'une manière, on va dire, à un coût abordable. C'est-à-dire qu'on peut donner des solutions, mais il y en a 95% des lecteurs qui vont se dire « Mais voilà, il faut être millionnaire avec ton truc. » Donc déjà, quand j'avais parlé comment filtrer l'eau avec un truc que j'avais acheté, ça avait déjà déclenché des vagues de tsunami. Là, c'est... Donc, l'objectif est de trouver une solution qui soit accessible et abordable à tous. Donc, ça se fera. Et dans un délai pas si lointain que ça. Hein. Quand j'ai un délai, c'est pas dans un an ou deux. C'est l'histoire de quelques semaines, pour l'instant. Hein. Alors, une question de Théo. J'avais mis un cristal de roche de C2P dans mon aquarium et je trouve que mes deux poissons rouges sont plus intelligents. ou peut-être que c'est moi qui deviens moins bête en buvant de l'eau encodée, et du coup j'arrive à les voir ainsi. C'est une bonne réflexion, Théo, c'est que effectivement, quand nous regardons des formes de vie, qu'on se dise, ouais, bon, vous savez, le coup classique du poisson dans le bocal et qui fait des bulles, on se dit, ouais, c'est con, mais dites-vous bien que les bouches à l'ébris, c'est nous, c'est pas eux. Donc, effectivement, c'est le fait de boire de l'eau encodée fait que ça te fait sauter certains programmes à volant qui te permet de réaliser que derrière toute forme de vie, il y a une intelligence. Parce que c'est le sang. Simplement, elle s'exprime différemment. Sinon, une question, qu'en est-il des esprits extragalactiques pour nous apporter une aide similaire que l'encodage des pierres? Alors là, les esprits extragalactiques nous apportent des informations au niveau du jeu. Et donc, ces informations ont un impact, mais que vous ne voyez pas directement, parce que, pour l'instant, nous n'avons pas les capacités de réceptionner ces informations. C'est-à-dire que l'énergie qui nous est envoyée par le Soleil, et donc les informations, et par ternaire et par le Soleil central, nous avons déjà du mal à les ingurgiter. Pourquoi ? Parce que on est tellement mazouté que c'est difficile de trouver un endroit qui n'est pas mazouté. Donc il faut démazouter pour arriver à accepter cette information. Et ce n'est qu'une information galactique. Donc on n'est déjà pas foutu de pouvoir, on va dire, ingurgiter d'une manière correcte les nouvelles informations du jeu. Alors imaginez que quand ce sont des extra-galactiques, c'est-à-dire des entités qui sont en dehors du jeu, et donc à des fréquences et à des dimensions qui sont autres que celui de la galaxie, nous sommes loin de pouvoir encaisser quoi que ce soit. Par contre, ces extra-galactiques apportent des informations, on va dire à un niveau beaucoup plus élevé, et actuellement, les esprits cristallins extragalactiques qui sont arrivés sont en train de diffuser un certain nombre d'informations au niveau de la planète elle-même. C'est-à-dire que pour l'instant, ces esprits cristallins extragalactiques, ou ces esprits ou entités extragalactiques, amènent une information à l'entité qui est capable de pouvoir les capter. Or, pour l'instant, cette entité s'appelle Maman Orantia Gaïa, et elle intègre, donc, on va dire, des informations qu'elle n'avait pas accès avant. Car dites-vous bien que la galaxie était elle-même enfermée, c'est-à-dire que ne pouvait pas accéder à des informations extra-galactiques. Donc, de ce fait, notre galaxie était ratatinée, au même titre que nous sommes ratatinés. Donc, la galaxie, en ce moment, est en train, on va dire, de recevoir de nouveaux codes, de nouvelles informations, et petit à petit, eh bien, on va dire, cela vient à notre niveau. Donc il a fallu pratiquement un an, puisque c'était, je me crois me rappeler, c'était le 18 janvier 2014, qu'il y a eu ce fameux bouchon de champagne. Et donc ça veut dire l'ouverture de la galaxie. Et donc de la Terre, entre guillemets, et de l'intra-Terre. Et donc, il a fallu quand même un an pour que des esprits cristallins puissent parvenir jusqu'à nous. Car dites-vous bien que, ayant vécu en autarcie, eh bien, les voies de circulation étaient plus en bon état. Imaginez, au niveau d'un gouvernement ou d'un pays extrêmement pauvre et qui n'a pas été alimenté depuis très longtemps, l'état des routes est déplorable. Et donc, ils ont quand même besoin d'avoir des routes, et ces routes s'appellent la grille cristalline. Or, vous savez tout très bien, comme moi, que la grille cristalline, au niveau de la Terre, est sérieusement amochée, mais c'est pas seulement au niveau de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses à remettre en place, et qu'il y a des travaux, et que ils peuvent pas rouler à fond les manettes sur les autoroutes, parce que les autoroutes, il y en a plus. Enfin, elles sont toujours là, mais loin d'être au maximum de leur capacité. Donc ces esprits, on va dire extra-galactiques, progressivement, à fur et à mesure qu'ils avancent, ils réparent, parce qu'ils réparent avec des nouveaux codes. C'est-à-dire que, si je reprends le réseau routier, nous on en était arrivés avec des ponts faits en bois qui pourrissent, alors qu'eux ils arrivent et puis ils te font un pont dans un délai record, mais qui tu sais que ça va pas lâcher, quoi. Donc, ça demande des travaux de restauration. Et ces travaux de restauration, maintenant, ils ont réussi, on va dire, à atteindre la terre. Et ces travaux de restauration ont commencé. Donc, ceci, j'en parlerai, on va dire, plus longuement, un petit peu plus tard, sur les travaux de restauration, on va dire, de la grille cristalline au niveau de la planète, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, ils sont au tout début, comme dirait l'autre, ils ont eu à peine le temps de mettre les panneaux, attention, chantier. Mais il y a de la cavalerie qui va arriver derrière, et quand ils vont se mettre à retaper la grille cristalline au niveau de la planète, croyez-moi que nous avons le sentier. Voilà. Et donc, bien sûr, cette restauration est faite en parallèle, on va dire, à l'eau encodée, car l'objectif de l'eau encodée, eh bien, c'est d'assécher tous les marais. Si je dis ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez toute la voirie qui est partie, on va dire, un peu en banane, et que y a des marécages partout maintenant, des marécages, on va dire, émotionnels, des marécages, enfin, de pollution, enfin, la merde totale, quoi. Et donc, l'eau encodée est là pour, on va dire, assécher les marais qu'il y a devant, et peut-être faire prendre conscience où sont les sables mouvants, et ainsi, comme ça, les extragalactiques, ainsi que les galactiques, qui sont bien sûr, comme dirait l'autre, les premiers concernés, eh bien, peuvent commencer les travaux. Donc, il y a un gros travail de restauration à faire, et on peut dire que ça y est, le travail commence à être fait. Donc je peux vous confirmer que le panneau en travaux, début des travaux telle date, a commencé. Hein, il est là, il est planté, il est debout. Bon, maintenant, derrière, il y a encore pas mal de boulot à faire. D'où, entre guillemets, cette notion de grosse Bertha. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il commence à remettre en état le minima syndical de la grille cristalline afin que, effectivement, l'encodage puisse aller à tous les endroits de la planète, là où il en aura besoin, en fonction de leur calendrier, on va dire, des travaux, de ce qui est possible de faire ou pas. Car vous savez que quand on ouvre une route ou on remet en état une route, il y a toujours un propriétaire, un copropriétaire ou quelqu'un qui dit « moi je veux pas que la route approche chez moi parce que ça va dévisager le paysage ». Donc vous avez des emmerdes dès que vous voulez faire quelque chose, et on peut dire que la nature humaine est assez spécialisée dans sa capacité à emmerder tout le monde, parce que chacun voit chez soi et ne voit pas l'intérêt global. Voilà, donc il y a des gens, je prends les éoliennes par exemple, il y a des gens qui hurlent contre le nucléaire, qui hurlent contre la pollution faite par le charbon, et qui disent « mais je veux quand même de l'électricité », et on leur dit « on n'a qu'à le fabriquer localement en mettant une éolienne », ils disent « non, parce que moi vu de ma fenêtre, ça fait pas beau ». Donc ils en veulent pas, et si on leur dit « maintenant, puisque vous ne voulez pas qu'on vous produise de l'énergie à proximité de chez vous, on va plus vous fournir en énergie, puis c'est tout ». Ah, ça, ils sont pas d'accord. Donc, beaucoup de gens disent non, sans offrir une solution, on va dire, alternative, viable. Donc, c'est beau d'être contre tout, mais il faut quand même qu'il y ait une contrepartie. Bon. Ça, c'était concernant les extragalactiques.